Alors, Korach, qu'il est ici identifié, si vous voulez, remonte jusqu'à Lévi. Si on est parti, si on a dit Ben Kehat, si on dit simplement Korach Ben Itzar, tout le monde est appelé quelqu'un A, fils de B. Mais on l'a visiblement, on remonte dans son arbre généalogique. On monte de Itzar à Kehat et Kehat à Lévi. La question qui se pose, c'est pourquoi on s'arrête? On aurait pu dire Ben Yaakov, Ben Yitzhak, Ben Abraham. Bon, on pouvait continuer. Ça s'est arrêté avant Yaakov. Mais effectivement, Rahamim explique pourquoi ça s'arrête avant Yaakov, et à la limite, si on s'était arrêté simplement à Itzar, on n'aurait pas entendu pourquoi. Il y a quelque chose de particulier, c'est que Yaakov ne veut pas apparaître dans cette ascendance. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose. Regardez Rashi. On va revenir après sur le premier Rashi, mais le Rashi sur Ben Itzar Ben Kehat Ben Lévi, de l'Iskir Ben Yaakov. Et on n'a pas continué. C'est arrêté. Et Rashi rapporte, chez Bikesh Rachamim Alatsmo. Yaakov a prié, il a demandé un acte de tendresse de la part d'Hachem à son égard. Chez Loïsa Khershmo Al-Machloktam. Que son nom ne soit pas mentionné sur leur machloket. Chez Neymar, parce que lui-même, Yaakov Avinu, dans les brachot qu'il a donné, Bikalam Altechad Kvodi. Dans les brachot, il a dit, je ne veux pas, justement, être mêlé. Les Echan Niskar Shmo Shel Korach. Mais, pourquoi, où est-ce qu'on voit qu'il ne veut pas être mentionné dans la machloket? Mais, d'où est-ce qu'on sait que c'est de cette machloket-là qu'il s'agit? Les Tiarsam, Al Adukhan, le livret Ayamim, c'est écrit effectivement dans le livre des chroniques. Là-bas, c'est marqué Ben En Yassaf, Ben Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Israël. Donc, il y a d'autres endroits où effectivement on est Meyaches. On parle de quelqu'un qui est un des fils de Korach, de Yassaf, Ben Korach, Ben Yassaf. Et là, on remonte jusqu'à Yaakov, avec son nom d'Israël d'ailleurs. Donc, c'est pas systématiquement, il ne veut pas être mentionné en même temps que Korach. Il ne veut pas être mentionné dans la machloket de Korach. Mais ça ne le dérange pas d'être mentionné comme ancien. Parce que, de facto, il est bien l'ancêtre de, ça change rien. Il est bien l'ancêtre de Korach. Mais comme ici, il s'agit d'un pasouk qui va nous parler de machloket, il veut pas être dans la machloket. Il a demandé à Hachem le privilège de, qu'on ne mentionne pas son nom, justement, dans la machloket. Le Gour Arié, effectivement, dans Maral, il veut dire que le fait que son nom ne soit pas mentionné ici, le nom de Yaakov ne soit pas mentionné ici, ça veut dire que c'est pour rien dans cette machloket. Alors, évidemment, c'est un peu dérangeant parce que ça veut dire que les autres, ils sont pour quelque chose. Itzar, Kehat, Lévi, ils sont pour quelque chose dans la machloket. C'est pour ça que leur nom est mentionné. C'est que celui de Yaakov ne l'est pas. Compliqué. difficile de... Je ne connais pas vraiment la réponse, si vous voulez. La Gemara, effectivement, elle dit quelque chose de ce genre-là. La Gemara dans Sanhedrin, elle a l'air de mentionner quelque chose de ce genre-là en disant que il y a quelque chose dans ceux qui sont mentionnés qui peut expliquer ce qui se passe avec Korach. C'est pas que Korach n'est que le produit de ses ancêtres. Mais en tout cas, il n'y avait pas dans les ancêtres, on ne pourrait pas dire que ces ancêtres-là y étaient pour rien. Mais ça devient un petit peu compliqué, parce que si on dit que Lévi, il avait quelque chose, mais d'où il l'avait, si c'est pas d'Yaakov, alors? Si on dit que ce qu'on a, ça vient en partie de ses ancêtres, alors le premier dans la liste ici, le plus proche de Yaakov, Lévi, son fils. Oui, là, cet élément peut être extrêmement petit, mais qui va finir par influencer Korach. Enfin, qui va être dans la composition de Korach, si on peut parler comme ça. C'est pas à répondre vraiment bien, ça. Alors, Korach a pris, comme tout le monde sait, l'akach et atzmo. Étant donné que on ne nous dit pas ce que Korach a pris. On dit que Korach a pris, mais on ne dit pas ce qu'il a pris. Alors, nos chachamim ont entendu que ça voulait dire qu'il s'est pris lui-même. Alors, Rashi le ramène, l'akach et atzmo le tzad echad. Il s'est mis c'est séparé des autres. L'Echlak mitoch haeda. Il s'est séparé du reste de la communauté. Le horaire à la keuna. Afin de protester, de remettre en cause la keuna. Un peu compliqué. Il remet en cause la keuna. Ça veut dire, il est Lévi. Qu'est-ce que Lévi peut remettre en, qu'est-ce que ça veut dire remettre en cause la Keuna si on est Lévi? C'est-à-dire que finalement, Aaron, c'est un Lévi. Pourquoi Aaron a un statut à part? Pourquoi il n'est pas un Lévi comme tout le monde? À la limite, c'est comme si lui, il aurait voulu être Cohen. C'est pas que on sait que le déclencheur de cette affaire, ça a été la nomination de quelqu'un d'autre que lui dans la direction d'Elvim. Mais là, on nous dit que c'est autre chose. Ici, on nous dit que la marloquette qu'il a, son intention, c'est d'être horaire sur la Keuna. Mais ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui... Quelqu'un devrait fermer son micro. Voilà, merci. Donc il est en train de contredire, de mettre en cause le choix d'Aaron comme Cohen. Mais ce choix d'Aaron comme Cohen, c'est, on peut dire que c'est Moshe qui l'a exprimé, mais c'est Hachem qui l'a décidé. Donc il est en train de contester tout ce que Moshe a fait, en quelque sorte. Et on peut dire tout ce que Moshe a fait au nom d'Hachem. Donc toutes les nominations et tout ce que Moshe dit, en fait. Donc le Horaire à la Keuna, c'est en fait contester Moshe Rabbeinu dans toute sa direction du clan d'Israël. Parce que Moshe Rabbeinu a dit que c'était Hachem qui avait choisi Aaron. Et si on conteste cela, c'est dire que c'est pas vrai, quoi. Alors, c'est veut dire que Moshe l'a inventé toute pièce. S'il a inventé ça, alors on conteste tout ce que Moshe a fait. Donc quasiment tout ce qu'on attribue à Hachem dans la Torah, c'est contesté ici par cette contestation de Korach. Donc c'est pas une petite contestation locale en quelque sorte sur la nomination d'un prince d'un responsable dans la tribu de Lévi. Bon, si on nous dit que son problème c'est il est Moreh, conteste la Kehuna elle-même, c'est-à-dire en fait toute la Torah jusqu'ici. C'est énorme. C'est une contestation très 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 compliquée en fait à entendre. Alors, comme Avraham Ibn Ezra, il dit que quand Aaron et ses fils, vous savez, vous vous souvenez, la Kehuna, c'est-à-dire le fait que une partie de la tribu de Lévi va avoir en charge toute la Avoda, c'était pas décidé dès le départ. Premièrement, on le sait de la discussion, enfin, des affaires entre Yaakov, Avinu et Ezra, et Esav. Bon, quand Yaakov Avinu a acheté la Bechora, qu'est-ce qu'il achète dans la Bechora? Il achète le rôle de Bechor, c'est-à-dire de celui qui fait la Avoda. C'est ce qu'il dit à Esav, il dit, qu'est-ce que c'est la Bechora? Ben, la Bechora c'est la Avoda, et la Avoda c'est quelque chose de terriblement important et de très grave, de très dangereux. C'est là-dessus que ça veut dire. Moi, je vis assez dangereusement comme ça. J'ai pas besoin. Je recherche pas les situations plus dangereuses. Et donc, l'avoda, c'était les bechorot qui normalement sont en charge de l'affaire. Toute la notion d'avoda. Ça veut dire évidemment que si l'avoda était le fait des bechorot, elle aurait été partagée complètement dans le clan d'Israël. N'importe quelle famille aurait produit, si c'est pas cette génération, la génération d'après, si c'est pas eux, c'est leurs cousins, etc., aurait produit des prorotes, c'est-à-dire des gens qui font la avoda. Au lieu d'avoir un groupe, qui c'est quasiment une caste, et qui va devenir presque un état, un bifne atzmo, comme dit l'Agmara, sur les Kohanim, c'est devenir un peuple à l'intérieur du peuple. Et avec toutes les dérives qui auront lieu par la suite, Beit Sheni en particulier. Alors, pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté parce que les prorotes se sont disqualifiés au moment du Vaudor. Parce que la halakha est que quelqu'un qui a servi dans le cadre de la Avodah Zara, il peut plus faire la Avodah au Beit HaMikdash, enfin, il peut plus faire la Avodah Tachem. Donc, comme les prorotes se sont disqualifiés par le Vaudor, il a fallu les remplacer. Et le remplacement s'est fait, effectivement, en prenant une partie de la tribu de Lévi, et puis ensuite l'Elvim, de façon générale, pour remplacer les prorotes. Mais Korach, qui lui est Bechor, il dit, mais moi j'ai les deux choses. Moi je suis à la fois Bechor et à la fois Lévi. Donc, c'est sûr que j'aurais fait un très bon candidat pour la Kehuna, pour être un vrai de Dieu. Donc, si vous voulez, la contestation de Korach, elle est une contestation qui n'est pas sans argument. Ce que Korach dit, ce sont des choses relativement logiques. Sauf que, il se trouve justement que ces nominations et autres choses là ne sont pas de l'ordre de la logique, mais c'est Hachem qui décide. Donc c'est une contestation à la limite du rôle d'Hachem. Donc c'est une contestation de toute la Torah. Quoi. Maintenant, il n'est pas tout seul. Sont mentionnés en tout cas Dathan et Aviram, Bnei Eliav. Donc ceux-là, c'est des gens de la tribu de Reuven. Alors, Reuven lui aussi, c'est quelqu'un qui a perdu son statut de Bechor. Bechor, ça veut au moins dire la double part dans l'héritage. Donc celui qui a reçu la double part, à savoir deux tribus, par Yaakov Avinu, c'est Yosef. Donc le Bechor, c'est le Bechor de Rachel, mais il n'est pas le Bechor de Yaakov. Le Bechor de Yaakov, c'était Reuven, et il a été lui aussi disqualifié, c'est lui par sa conduite, qui ne précède pas à Volazara, etc., mais par son impulsivité, etc., Yaakov a décidé de le disqualifier et il va donner la Bechora à quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, à Yosef. Maintenant, et ça va être le cas de tous les gens de la tribu de Reuven qui vont se sentir un peu, nous, on est dans la tribu, si déjà c'est une tribu qui doit jouer le rôle des Prorotes et pas tout le monde, alors nous on est spécialement qualifiés, nous on est la tribu de Reuven, nous sommes la tribu de Chor. Donc c'est aussi toutes sortes d'arguments qui sont tout à fait recevables. Et ensuite, c'est vrai que quand on lit le texte, on entend que les Lévim sont donnés comme des serviteurs quasiment des Kohanim. Bon, ça veut dire que vous avez une partie de la tribu de Lévi qui devient serviteur de l'autre partie. C'est pas très agréable. Évidemment, ça devient acceptable à partir du moment où on sait que tout le monde est au service de Hachem. Mais bon, c'est pas le problème. Est-ce que tout le monde est au service d'Hachem ou est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui distribue en fonction de ses népotismes, ses copains, ses proches, etc. Et du coup, c'est ça toute la terminologie, toute la explication, en fait, l'argument de Korach, de Dathan Aviram. Dathan Aviram, bon, c'est pas étonnant parce que oui, ils sont dans tous les mauvais coups. À présent, chaque fois qu'il y a un problème, y compris le premier mauvais coup qui est là, de dénoncer Moshe Rabbeinu qui avait tué l'Égyptien, c'est Dathan et Aviram qui l'ont dénoncé. Donc c'est eux qui ont provoqué l'obligation qui a été faite à Moshe Rabbeinu de fuir l'Égypte. Bon. Donc ils sont depuis le début. De mauvais sujet, quoi. Donc on a ici une révolte. Bon alors les Rishonim ils discutent pour savoir quand elle a lieu cette révolte, mais bon, on va pas s'arrêter là-dessus. Simplement, il faut penser que il y a quelque chose qui s'est cassé du fait que Moshe Rabbeinu n'a pas pu obtenir une remise de peine pour les Bnei Israël après l'affaire des explorateurs. Jusqu'à présent, les Bnei Israël étaient habitués. De quoi qu'ils fassent, quand Hachem même menaçait de les détruire complètement, Moshe Rabbeinu intervenait et il obtenait le pardon d'Hachem. Et là, il n'a rien obtenu. On n'entend même pas d'ailleurs qu'il se soit vraiment investi pour obtenir quelque chose. Alors, si on pense comme le Gaon de Vilna que, en réalité, après le Vaudor, ce que Moshe Rabbeinu a obtenu, c'est seulement un sursis. Il n'a pas obtenu un pardon complet. Il a obtenu un sursis. Et avec les Meraglim, le sursis tombe. Quand le sursis tombe, il n'y a plus rien à dire. Rien faire. Il avait obtenu le sursis. Et maintenant, quand le sursis tombe, ça veut dire que les Bnei Israël qui vont mourir, ils ne meurent pas à cause des explorateurs. Ils meurent parce que ils ont été condamnés à mort à partir de l'histoire du Vaudor. Bon, Hachem avait dit, je vais détruire complètement le peuple. Kadosh Baruch Hu, il va pas détruire complètement, mais quasiment détruire. Ce qui va détruire toute la génération de ceux qui ont vécu la sortie d'Égypte, le passage de la mer, le don de la Torah, etc. En étant adultes. Ceux qui ont vécu ça en étant adultes, tous ceux-là vont disparaître, à l'exception, comme vous savez bien, de Kalev Ben Yefouné et de Yoshua Bin. Donc c'est pratiquement une destruction du clan Israël. Une destruction complète, c'est un déséquilibre complet, parce que les femmes, elles ne sont pas mortes, donc il y a toutes ces générations de veuves. Ces veuves, là. Donc le clan Israël, il est déséquilibré par ça aussi. Et du coup, Moshe Rabbeinu a perdu de, si on peut parler, sa superbe, si vous voulez, pour l'amour du clan Israël pour Moshe Rabbeinu était tel que un Korar qui aurait parlé avant Emraglim, il se serait lapidé tout de suite en disant ce qu'il dit sur Moshe. Les Israël n'aurait jamais laissé parler entre Moshe de la sorte. Mais après les explorateurs, alors il y a beaucoup de choses qui vont malheureusement être permises contre Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu n'est plus pour eux celui qui peut tout. Il peut pas tout. Ah, s'il peut pas tout, alors on peut maintenant contester. Et c'est ce qu'ils font. Ils contestent, effectivement. Donc, chacun vient avec ses problèmes. Rav Olmé dit que dans une situation écrite par la Torah, il faut toujours se demander quelle est la mida qui est à l'œuvre, quel est le déclencheur en quelque sorte de toute cette affaire. Alors, le déclencheur de l'affaire, c'est la nomination par Moshe Rabbeinu, sous l'ordre d'Hachem, d'Elie Tsafan, qui est un fils d'Uziel, et qui est responsable de la tribu de Kehat. Et comme vous voyez, c'est écrit « Korar ben Issar ben Kehat ». Et donc là, Korar se dit « Mais on regarde l'ordre des naissances dans la famille ». C'était à mon tour de devenir quelque chose. C'est moi qui devais être nommé. Au moins ça. Et étant donné que Korach ne l'a pas utilisé, il n'a pas voulu attaquer à ce moment-là Moshe Rabbeinu tel quel. Mais finalement, il n'aurait pas pu, ça dépend si on... Si on décide que ça a eu lieu avant ou après les explorateurs, cette histoire. Mais en tout cas, après les explorateurs, comme je vous ai dit, il pense qu'il peut critiquer Moshe Rabbeinu ici. Et donc ça, c'est le déclencheur. Maintenant, évidemment, la mida de Korach, évidemment, l'orgueil qui est à l'œuvre. Ils veulent pouvoir pour lui, et on entend bien dans la contestation, il est quasiment en train de contester Hachem, finalement. Que contester Moshe Rabbeinu en disant que c'est pas, que c'est Moshe Rabbeinu qui a décidé, alors il dit que c'est pas vrai, tout, donc il conteste que c'est Hachem, il conteste qu'il y a Hachem qui décide. Or la mida de la contestation, celui qui se prend pour Hachem, bon, celui qui a de la gava, celui qui a l'orgueil en quelque sorte. Donc cette mida, c'est la mida d'orgueil. Et puis, alors, Korach n'est pas venu dire c'est moi pour me choisir moi. Cette théorie-là, il n'a pas osé quand même là, parce que Il y a quelqu'un qui a compris effectivement qu'il en était réellement, c'est la femme de Onden Pellet. C'est le dernier qui a mentionné dans la liste qui a accompagné Korach, qui s'appelle Onden Pellet, c'est aussi un Reuvenite. Et vous connaissez l'affaire. Onden Pellet, il est dans le complot, dans la révolte, il est du côté de Korach. Et quand il y aura les grandes manifestations avec les Ktoret, etc., les gens de Korach sont venus chercher Onden Pellet, mais la femme de On, elle lui a dit, écoute, t'as vraiment rien à gagner dans cette affaire. Parce que si Korach a raison, ben ce sera Korach qui sera le chef, c'est pas toi. Et si Korach a tort, ben c'est Moshe le chef et c'est toujours pas toi. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu vas te risquer ta peau dans ce genre de choses? Ça vaut pas la peine. Et le Midrash dit que Ben On a dit à sa femme, il dit, mais je peux pas, je me suis engagé. Alors elle lui a dit, moi je sais comment on fait. Alors, comme vous savez probablement, je répète juste pour que ce soit clair pour tout le monde, quand ils sont venus chercher On, sa femme s'est mise dans la première pièce et quand ils ont ouvert la porte, elle était en train de travailler sur ses cheveux, elle avait les cheveux découverts, ils ont vu une femme avec des cheveux découverts, ils ont fermé la porte, ils sont partis. Donc il a été sauvé comme ça. Et le Midrash dit, il y a des femmes qui sauvent leur mari, et l'exemple, c'est la femme de Onden Pellet. Parce que, au contraire, la femme de Korach, elle va, au contraire, enfoncer complètement Korach. Elle va le pousser à l'extrême. On reviendra dessus. Et donc, il n'a pas osé, Korach, dire que c'est lui, il voulait le pouvoir pour lui. Alors il a inventé une théorie. La théorie, c'est une théorie un peu communiste, ça veut dire il n'y a pas de chef. On est tous les chefs. Et on n'a pas besoin de chef. On n'a pas besoin de chef, on peut très bien se débrouiller sans chef. Et alors, ben, qu'est-ce qu'il va gagner s'il n'y a pas de chef? Il ne sera jamais le chef, alors. Si, il sait qu'il est le chef, il va être le chef. Pourquoi? Parce qu'un jour, les Bnei Israël vont avoir besoin d'argent. Et lui, il est le plus riche de tous. Et donc, il faudra de l'argent. Lui, il fournira l'argent et il aura le pouvoir. D'où est-ce qu'il a tout son argent? Il s'est bien débrouillé au passage de la mer. C'est lui qui a récolté le plus de trésors. Donc, il invente une théorie de l'égalité complète. Il n'y a pas de chef, on est tous à la même hauteur, et c'est ce qu'il va dire, Kol ha'eda kulam kedoshim. On est tous kadosh. On a tous entendu Hashem au Sinaï. Vadoa titnasu, et pourquoi est-ce que toi et Aaron vous mettez à la tête, là? Contestez la kdusha du peuple, en fait. Le peuple, il est entièrement en kadosh. Donc, vous n'avez aucune raison d'avoir une position différente de celle de tout le monde. Donc, c'est cette théorie-là. Donc, c'est ce que disait la Volbe, quand quelqu'un a une théorie, il faut se demander toujours d'où elle vient, cette théorie. Pourquoi il tient cette théorie-là? Alors, il tient cette théorie parce qu'il sait qu'il a un avantage. Et où est-ce qu'on voit la même chose? Le Midrash dit que quand Nimrod a entraîné tout le monde à construire la tour de Babel, alors c'est marqué dans le Midrash que Mitzrayim a dit à Put, c'est l'Éthiopie ou le Soudan, je ne sais pas, il a dit, écoute, nous on est plus intelligents que tous, on va aller avec tout le monde, à un moment donné on aura besoin d'intelligence et on aura le pouvoir. Donc, ils sont plus intelligents. C'est-à-dire que quand il y a une théorie, il faut toujours se demander, celui qui tient cette théorie-là de l'égalité complète, comment il s'imagine, qu'est-ce qu'il a comme atout dans sa manche pour quand même avoir le pouvoir pour lui, puisqu'il dit, personne ne doit avoir le pouvoir. Il veut quand même le pouvoir, il veut pas, il veut, la Torah, elle croit pas que quelqu'un veuille supprimer complètement, sérieusement, le pouvoir. Et l'enjeu du pouvoir, les gens veulent le pouvoir. Donc s'ils veulent le pouvoir et qu'il a une théorie qui dit qu'il ne doit pas y avoir de pouvoir, pour qu'ils sachent que dans le cadre de sa théorie, il va pouvoir quand même arriver au pouvoir. Alors, Mitzrayim et Pout, c'est l'intelligence, plus grande civilisation. Bon, c'est l'Égypte et bon, il y avait une civilisation très proche de l'Égypte, une très grande civilisation dont on ne savait pas qu'elle était aussi grande. Paraît-il, c'est relativement récemment qu'on s'est aperçu. Finalement, ce sont eux qui ont donné. Il y a des pharaons qui sont appelés les pharaons noirs, parce qu'ils étaient noirs, effectivement. Mais ils étaient justement de ce peuple-là qui était un peuple qui était soumis à l'Égypte, mais qui finit par devenir plus important et plus fort que l'Égypte. Et c'est eux qui ont dirigé l'Égypte pendant un certain temps. Donc ça, c'est Mitzrayim et Pout. Et Korah, lui, sa théorie, c'est égalité, mais comment lui, il arrive au pouvoir? Par l'argent. Donc l'intelligence ou l'argent. Donc, ça c'est Korah. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Korah? Il réclame contre Moshe Rabbeinu. Et au début, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas quoi faire en réalité. Baïpol al-Panam. Verset d'Alet, Moshe Rabbeinu, quand il entend ça, se prosterne à terre, Baïpol al-Panam. Et pourquoi il se prosterne? Pourquoi il s'écrase à terre? Parce qu'il dit, Bifnei al-Machloket. Moshe Rabbeinu, il voit naître ici une Machloket, il commence par s'écraser. C'est déjà la quatrième fois qu'il se révolte, dit Rashi, le Hegel. À ce moment, c'est marqué Vaïtfalel Moshe. Dans les mitononymes, Vaïtfalel Moshe, Mamraglim, Vaïom Moshe, il a dit à l'Hachem, Veshamu Mitzrayim, il avait quand même essayé de faire quelque chose. Il a obtenu que Hachem ne change pas du tout, enfin, ne change pas totalement de peuple. Hachem lui avait proposé à Moshe Rabbeinu. Laisse-moi, on arrête avec ce peuple et je commence un nouveau peuple avec toi, Moshe. Et Moshe a dit, non, pas du tout, si tu tues les Bnei Israël, les Égyptiens vont dire que si tu as tué les Bnei Israël dans le désert, c'est que tu étais incapable de les faire entrer en Eretz Israël et comme tu l'avais promis, tu pouvais pas tenir ta parole alors que tu les as tués. C'était l'argument, c'est un Chilul Hashem, ça veut dire. Alors Moshe Rabbeinu a dit, Hashem, tu fais un Chilul Hashem, là. Donc, Korach. Quand Korach commence une nouvelle machloquette, une nouvelle contestation, là, Moshe Rabbeinu n'en peut plus. Là, Rashi ramène que, voilà, il a dit, Moshe Rabbeinu n'en peut plus, c'est plus possible. Je peux pas encore une nouvelle fois obtenir le pardon de cette révolte. Monsieur Rabbeinu comprend bien que c'est une révolte contre Hachem. Il dit, j'y arriverai pas. Je peux pas faire ça. J'y arriverai plus. Et alors, il dit à Korach et à toute son équipe, toute sa Eda. C'est intéressant parce qu'on utilise ici le mot Eda. La première occurrence du mot Eda, elle est dans les Meraglim. Quand Hachem veut qualifier les 10 explorateurs, il les appelle Haeda Hara'a Azot. Dans Eda, vous avez la racine Ed. C'est-à-dire, cette idée de témoignage. Donc, c'est une espèce de communauté témoignante. On témoigne, comme on témoigne, par exemple, quand on dit Vaïkoulou le soir de Shabbat, c'est un témoignage sur la création du monde. Et donc, c'est une communauté témoignante qui témoigne les gens qui sont autour de Korach et qui témoignent dans le même sens que Korach, en quelque sorte. Et Moshe leur dit, Boker, Yoda Hashem et Hashem lo, Kadosh, Vikriv et Lav. Hashem bar Yifrar bo, Yakriv et Lav. Moshe Rabbeinu leur dit, vous dites que c'est moi qui ai inventé les choses. Eh bien, remettons les choses complètement entre les mains d'Hachem. On va faire en sorte qu'Hachem manifeste clairement son choix. Ça, et donc, il leur donne le conseil. Vous allez prendre des encensoirs. Et puis, vous allez mettre du feu, de Ktoret. Et puis, on verra celui qu'Hachem aura choisi. Mais mon cher ami nous dit à Korach, il essaie de faire la morale à Korach. Hachem sait que c'est une opération dangereuse pour Korach. Pour les siens. Alors il essaye et il lui dit Shimona Abne Lévi, écoutez donc, vous êtes des Lévim, Améat Miken qui dit le Loké Israël et Trem, Méadat Israël, la Krivet Trem et Lab, la Vodet Avodat Mishkan Hashem, la Mod Bifne Aïdan du Chantam. Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est une petite chose? Le fait qu'Hachem vous a choisi parmi toutes les autres tribus pour servir Hachem? Il t'a rapproché, toi et tous tes frères. Et maintenant, vous voulez la Kehuna aussi? Maintenant, toi et toute ta communauté, en fait, vous élevez contre Hachem, mais qu'est-ce que vous voulez d'Aaron? Pourquoi vous contestez Aaron? Alors, Moshe a envoyé chercher Latan et Aviram pour qu'eux aussi participent au choix qu'Hachem va manifester. Ils ont refusé. Et alors, du coup, on voit très bien ce qu'ils sont capables de dire. Regardez, mettez vos ceintures et regardez ce qu'il dit dans le Pasuk Yud Gimel. Qu'est-ce qu'ils disent? Amrat ki elitanu me'eretz zavat chalav udvash. Il qualifie Eretz Yisraël avec les termes qu'Hachem a donné pour qualifier Eretz Yisraël. Est-ce que c'est une petite chose que tu nous as fait quitter le pays où coulait le lait et le miel pour nous faire crever dans le désert? Et en plus, tu veux maintenant nous dominer? Tu nous as même pas amené dans un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que tu nous as pas donné en héritage des champs, des vignes? Alors il dit, Aïnea Anashim Aem Tnaker Lonal. Est-ce que tu t'imagines que tu peux crever les yeux des gens? Parce qu'ils ne voient pas ce que tu es en train de faire, on vient pas. Alors Hachem, Moshe Rabbeinu était très affecté en fait. Il voulait même pas se soumettre au choix d'Hachem. Donc Moshe Rabbeinu va prier pour que Hachem n'accepte pas le mincha, les cadeaux, enfin les offrandes, en quelque sorte, qu'ils vont amener. Et il se justifie, mon cher Rabbeinu. Lo chamor echad mehem nasati. J'ai pas pris un seul. J'avais même pas de voiture de fonction. Lo arati et echad mehem, j'ai fait de mal à aucun d'entre eux. Alors, ne les écoute pas. Intéressant que Moshe Rabbeinu a ressenti le besoin de se justifier. Il y a un petit problème, je ne sais pas vraiment résoudre, au verset 15. Moshe Rabbeinu demande à Hachem de ne pas accepter, ils ont traduit ici par l'offrande, la mincha, des gens de Korach. La mincha, l'offrande, c'est le Torah. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu demande à Hachem de ne pas tenir compte de la part qu'ont les gens de Korach dans le Korban Tamid. Et la vérité, c'est que, si je comprends bien, c'est un peu difficile à comprendre ça. Je vous explique pourquoi. Halakha qui dit que si le clan d'Israël décidait d'offrir collectivement une offrande à Hachem, c'est-à-dire que chacun va mettre un euro et avec ça on va acheter, je ne sais pas, des béliers, de l'encens, etc. On va offrir ça à Hachem. Quel sera le statut de cette offrande? Là, la phrase, c'est que ça s'appellera Korban Shel Shutafim. C'est le Korban de gens qui sont associés. Or, les Korbanot, comme le Korban de Tamid, les Korbanot que le Klal Yisrael apporte, le Shabbat, ce sont pas des Korbanot d'associés. Avec quel argent est-ce qu'on a fait? Avec le Martita Shekel. Avec le Demi Shekel, c'est une Korbanot. Avec ça, on achète ce qu'on appelle les korbanot tzibour. Tout ce qui est offert au nom du tzibour. Le tzibour, c'est pas des associés. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'argent qu'on mettait dans la caisse du marché d'achetel, c'est un argent qui perdait complètement la trace de celui qui l'a donné. Cet argent, il n'est plus l'argent de Toto qui a donné un euro dans on va demi shekel. Quelqu'un qui a donné un demi shekel dans. C'est de l'argent qui est devenu argent du tibour. Car justement, on voit dans le Midrashim, on voit que et on voit dans le Mara aussi. Il ne fallait pas que le Korban Tzibour devienne un Korban de Shutfim. C'est une autre chose. C'est un Korban qui est apporté par une entité qui s'appelle Klal Israël. C'est la notion du Klal Israël qui n'est pas un Klal Israël qui n'est pas du tout, qui n'a pas le Klal Israël du temps d'Abraham Abinou, le Klal Israël du temps de Moshe, le Klal Israël d'aujourd'hui, etc. Il y a un Klal Israël qui est intemporel. Et habité successivement par les différentes générations. Mais c'est une notion qui n'a rien à voir, qui est intemporelle complètement. Et c'est cette notion-là, si on peut parler comme ça, qui offre les corbanotes du Tzibour. Donc quand le Midrash dit qu'on a demandé que Hachem ne tienne pas compte de leur contribution, c'est un peu étonnant parce que il n'y a de contribution de personne dans le Korban Tzibour. Justement, le Korban Tzibour, c'est un Korban dans lequel on a oublié complètement la contribution. C'est juste une remarque, mais je pense que c'est une remarque importante pour voir la différence entre ce que c'est que le tibour. Pas les shutafim, c'est pas les associés. La on traite très différemment un korban chez le tibour, d'autres raisons techniques que le korban tibour. C'est un korban de shutafim, on traiterait ça différemment. Donc, Moshe Rabbeinu nous demande à Hachem de ne pas agréer ce qu'ils vont approcher. Et dit à Aaron, et il lui dit, voilà, toi aussi, Hachem a dit à Moshe et à Aaron, il dit, bon, séparez-vous complètement, et je vais les détruire complètement, tous ces gens. Mais Moshe Rabbeinu a intercédé. Il a dit cette drôle de chose, Aish Echad Yecheta, Bal Kola Eda Tiktsof, il y a un homme qui a fauté. Et tous ces gens, tous ces followers, là, tu vas tuer tout ce monde-là, c'est pas juste. Donc c'est Moshe qui leur a sauvé la vie, en quelque sorte. Commence par leur sauver la vie d'abord. À ces gens qui sont contre lui, qui veulent le virer. Il accuse de toutes sortes de choses. Alors, Hachem a dit à Moshe, ok, alors maintenant, tout le monde est allé chercher Datan et Abiram, puis il y a toute cette histoire de, évidemment, dit, éloignez-vous des tentes de Kohar, Datan, Abiram, etc. Et Moshe Rabbeinu a dit aux gens, il leur a dit, maintenant vous allez savoir que Hachem m'a envoyé faire tout ce que j'ai fait, que j'ai rien inventé par moi-même. Et si ces gens-là, les gens de Kohar, ces gens-là meurent comme monsieur tout le monde, alors, vous avez raison, c'est Hachem, Hachem m'a pas envoyé, c'est moi qui ai tout inventé. Mais si Hachem crée quelque chose de nouveau, passe quelque chose de nouveau, que la terre va s'ouvrir, et avale ces gens-là, et tous leurs biens, ils vont descendre vivants littéralement dans le Sheol, dans la résidence des morts, alors vous saurez que ces gens-là sont des blasphémateurs, ils ont blasphémé contre Hachem. Et effectivement, la terre s'est ouverte, comme vous savez, et l'a avalé Korach et tous les gens autour d'eux. Les gens sont mis à pleurer. Ils ont même eu un peu peur que eux aussi d'être engloutis. Ensuite, dit à Elazar, ben Aaron, récupère les encens de ces gens-là. Et il faut que tu enlèves le feu qu'il y a dans ces encens. Mais les encens eux-mêmes, comme ils ont été mis de côté pour être offert à Hachem, ils ont une kedusha. Donc ces encensoirs, on va les laminer, et ils vont être offerts en permanence à Hachem, dans la mesure où ils vont servir des plaques sur le misbéach. Incroyable. C'est la puissance de la Kedusha, alors que c'était fait par des gens qui voulaient contester Hachem, contester Moshe Rabbeinu, etc. Bien non, ça va être réutilisé par n'importe où, sur le misbéach. Il faut des plaques de métal. Eh bien, on va laminer ça et on va les mettre sur le misbéach. C'est ce que Elazar a fait, effectivement. Et alors, ici, il se passe quelque chose de difficile à comprendre. Au verset Vav, le verset 6, après toute cette chose-là, tout cet épisode, là, toute cette manifestation de la puissance d'Hachem, etc., la démonstration, etc. Le verset dit, « Vaïlonu kol adat b'nei Israël mimachorat al Moshe v'al Aaron lemor, atem amitem et am. » Bon. Le clan Israël, après tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent à Moshe et à Aaron. Ils disent, vous avez tué le peuple d'Hachem. On les accuse d'avoir tué le peuple d'Hachem. Korach et ses followers, là, ils sont appelés Am Hachem, peuple d'Hachem. On dit, Moshe et Aaron, vous êtes la cause de leur mort. Les Juifs, ils sont insupportables. Bon, je ne sais pas comment vous entendez ce qu'ils disent là, mais c'est incroyable. Comment on peut parler de la sorte? Où est-ce qu'ils ont pris cette chutzpah, Et alors ici, Moshe dit à Aaron, Kach et Amarta, prends un encensoir, mets du feu, prends le feu qui a sur le misbéach, mets des ktorets, l'encens, et tu vas rapidement, tu fonces vers l'Ebné Israël pour mettre cet encensoir au milieu des Ebné Israël. Parce que la colère d'Hachem s'est enflammée contre eux, et le Nagef, le fléau, a commencé. C'est-à-dire que la colère d'Hachem s'est enflammée contre les Israël, ont commencé à mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Moshe a dit à Aaron, tu fonces et tu places le ktoret au milieu. Et amener le ktoret ici, ça va arrêter la magéfa. Il ne s'agit pas de guérir les gens, il s'agit d'arrêter la dispersion, la propagation de la magéfa. Et Aaron a fait ce que Moshe lui a dit, il a couru, il s'est placé au milieu des Bnei Israël. Et effectivement, la magéfa avait commencé. Et lui, il a mis la magéfa et il y a eu Kapara. Et donc, il s'est tenu, Aaron, entre les morts et les vivants. Et ça a arrêté la magéfa. Ça a coûté 14 élèves, ou 700 hôtes. Donc, là, cette magéfa-là, elle coûte 14 700 morts. On ne compte pas ici les gens de Korach et Ve'adato. Donc Hachem va donner à M. Rabbeinu une procédure pour justement, encore une fois, manifester que ce que Moshe et Aaron ont fait, c'était bien, et que c'est eux qui sont choisis, c'est Aaron qui est choisi, etc. Avec les bâtons qui vont fleurir, enfin le bâton d'Aaron qui va fleurir, pour bien montrer le choix d'Hachem. Mais les Bnei Israël, ils continuent de se plaindre. Ils disent, voilà, on est en train de mourir, on est perdu. Mais quand est-ce que ça finira? Ça finira jamais. Aïm tamnu livoa. On n'aura jamais fini de mourir. Il se pose pas la question de savoir quand est-ce qu'on aura enfin compris la leçon. Non, il regarde le bâton qui les a frappés. On meurt là. Pas normal. Pourquoi on meurt? Rien, visiblement, c'est affolant, quoi. Alors, bien sûr, il va falloir garder ses distances par rapport à la Kdusha du Mishkan. Effectivement, il faudra faire attention que n'importe qui ne vienne pas quand il en a envie, quand ça lui chante, s'approcher de là où ils ne doivent pas s'approcher. Donc, voilà, on met en place le statut d'Elvim. Bon, c'est tous les problèmes de Maaser, etc. Bon, il installe complètement les Kohanim et l'Elvim avec le fait que, évidemment, ils vont être... du point de vue de leur parnassa dépendant des Bnei Israël. Ils vont représenter les Bnei Israël, mais ils seront effectivement dépendants des Bnei Israël. Les Bnei Israël vont devoir les nourrir. Il y aura les fameuses 24 matnot keuna, les 29 choses qu'on donne, Kohanim, les dîm, les baaser, les dîm, etc. Bon, c'est pour remettre en place ce qui a été très fortement contesté par Korach et Adapo. Il y a donc ici toute une paracha sur la contestation de, finalement, la contestation de toute la Torah. Contestation par un meneur. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, dans l'argument pour essayer de sauver les Bnei Israël, quand il a dit « Aish Echad », est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un homme qui a fauté, c'est vrai qu'il a toute une Eda qui l'a suivi, mais tu vas les tuer tous parce qu'ils ont suivi celui qui a fauté, mais eux aussi ils ont fauté. Moshe Rabbeinu l'a fait comme si eux n'étaient pas responsables. Ils n'ont fait que suivre quelqu'un. C'était probablement un beau parleur qui avait effectivement des arguments convaincants, etc., comme vous savez. Convaincants, oui. Des arguments logiques. Et tout ça pour tous les arguments qu'il va donner, les histoires du Talit qui est entièrement de Trélet, ou la pièce qui est pleine de Sfarim et qui aurait besoin quand même d'une mezouza, etc. Ça, c'est les arguments en faveur de la théorie de Korach, qui veut dire que on n'a pas besoin d'un représentant. Un représentant, on en a besoin, quelqu'un qui le gouverne, c'est quand les gens sont pas à la hauteur, mais nous, on est tous à la hauteur. Alors, c'est vrai que les Bnei Israël sont Kedoshim. C'est vrai que les Bnei Israël, d'avoir entendu Hachem au Sinaï, ça les a radicalement changés. Les Bnei Israël ne sont pas un peuple comme les autres. Si vous voulez, c'est toujours avec une certaine ambiguïté dans ce que dit Korach. C'est-à-dire, formellement, c'est vrai, mais lui, il ne l'utilise pas dans ce sens-là. Il ne l'utilise pas dans le sens de la vérité. Et c'est ça le... Je pense que la grande leçon, en fait, c'est que quand on comprend pas vraiment ce qu'il y a, ou bien quand on veut pas comprendre, alors on peut faire feu de tout bois, en réalité. Et les Israéliens sont capables de dire, après tout ce qui s'est passé, ils sont capables de dire que Moshe et Aaron ont tué Am Hashem. Vous avez tué le peuple d'Hachem. Ils ont tué personne d'abord. Et ensuite, même si on veut dire que c'est parce que eux-mêmes sont quelque part, se sont tournés vers Hachem pour lui demander d'agir. Ils ont demandé conseil. Et Hachem a agi sur la demande, mais il fallait bien qu'il intervienne pour remettre les choses en place. Et ça s'appelle, vous avez tué le peuple d'Hachem. Je ne sais pas, il faut réfléchir. Est-ce que nous, dans notre vie, on n'a pas aussi ce genre d'incohérence? Parce qu'a priori, si c'est dans la Torah, c'est pas pour nous raconter l'histoire de Korach. L'histoire de Korach, elle a eu lieu, point barre, c'est fini. C'est devenu Torah, c'est devenu un enseignement. Donc, si c'est un enseignement, c'est un enseignement pour nous aussi. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est en quoi cet enseignement qui est donné ici, en quoi est-ce qu'il nous concerne? Peu vraisemblable que l'enseignement ne nous concerne pas du tout. Parce que tout dans la Torah nous concerne. Même quand la Torah elle parle de ce que les Kohanim doivent faire et qu'on n'est pas Kohen, il y a toujours des enseignements qui sont là derrière. Ils sont valables pour tout le monde. Il n'existe pas des choses qui ne concernent personne. Quelqu'un peut se dire, ça ne nous concerne pas. Tout nous concerne. C'est pas toujours la façon aussi précise que c'est écrit ici, mais la leçon, elle nous concerne. Donc c'est quoi la leçon de Parshat Korach, finalement? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Est-ce que ça vient... Il faut entendre ici que... On pourrait dire d'abord que on n'est pas dans un système de logique. Il n'y a aucune logique dans le fait qu'un fil de traînette va régler... On sait que, comme on a vu la semaine dernière... Un fil de laine teint, quelque chose qui est censé me rappeler la totalité des mitzvot et m'inciter à les faire. C'est énorme. Comment ça? Faut comprendre un petit peu de quoi on parle. Et Korach, quand il dit, mais si c'est cette couleur, et puis on dit que c'est la couleur, puisqu'on dit, le trelet, c'est domé la yam, yam la savim la rakia, rakia, pour qui c'est la kavod. Donc on est invité à laisser l'esprit vagabonder en quelque sorte et suivre ce film jusqu'à des hauteurs incroyables. Une espèce de dérive, comme si une dérive par la couleur. D'ailleurs une dérive qui n'est pas évidente, parce que de dire que Yam Domé la Savim, que la mer, elle ressemble aux herbes. Ça dit, ben, c'est une herbe. Et ensuite, l'herbe au soleil, au ciel. On a plutôt dit directement de la mer. Quand on est sur la mer, très souvent, si on a une vue assez lointaine, à un moment, on distingue même plus le ciel et la mer. On a pu passer directement de la mer au ciel. Non, on transite par le végétal, en fait. Et après, il vient, ben, si c'est la couleur, ben, la couleur, je peux rêver avec un vêtement tout entier de traînette. Alors, je peux faire une différence entre un fil et une... Et le fait, ce qui est important, c'est peut-être justement le traînette sur du blanc et pas du traînette qui est... Il y a que du traînette. Au contraire, on peut faire toutes sortes de différences. Mais maintenant, ces différences-là, c'est plus de la logique pure, quoi. C'est plus la logique absolue, c'est plus la hiérarchie, c'est plus la chronologie qui décide de qui va être choisi, c'est C'est Hachem qui choisit. Et c'est une autre logique, si on peut parler comme ça. C'est la logique d'Hachem. C'est les choix d'Hachem. Et on peut additionner des gens avec les rêves et les ressentiments, etc., des uns et des autres. Éventuellement, si on est assez malin, on peut les agglomérer. Et on va pouvoir fabriquer une EDA, fabriquer une communauté qui va témoigner dans une certaine direction, c'est là où Korach, enfin, dans la direction que Korach avait choisie, il va les faire parler, en quelque sorte, dans ce sens-là, agir même, et risquer leur peau pour Korach. Donc la leçon, elle est que les hommes peuvent se faire entraîner, on peut se laisser entraîner très facilement, d'une part. Et d'autre part, il faut savoir que la Torah, c'est la Torah qu'Hachem a donnée à travers Moshe Rabbeinu. C'est pas autre chose. C'est ça la Torah.